Ce matin, on ne fera pas peut-être de grec ni d'hébreu. Je vais vous emmener dans un voyage, quelque part. Mais je voudrais vous poser une question. Alors, la première question... T'arrives ? Voilà. Si tu étais un arbre, imagine, quel arbre serais-tu ? Alors, nous avons chanté la louange tout à l'heure, nous avions un baobab comme fond. Quel arbre serais-tu ? Avez-vous trouvé ? Avez-vous choisi ? Dans le psaume 1, alors nous allons le lire, ce psaume, dans la version de la Bible en français courant. Heureux qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu et qui ne s'assied pas avec eux, ceux qui se moquent de tout. Ce qu'il aime, au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur, il le médite, jour et nuit. Il est comme un arbre, planté près d'un courant d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue, et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce qu'il fait, cet homme... est réussi. Mais ce n'est pas le cas des gens sans foi ni loi. Ils sont comme brins de paille dispersés par le vent. C'est pourquoi quand on juge à l'entrée du temple, ces gens-là ne sont pas admis. Dans l'assemblée des fidèles de Dieu, il n'y a pas de place pour eux. Le Seigneur connaît la conduite des fidèles. Mais la conduite des gens sans foi ni loi mène au désastre. Dans ce psaume 1, nous avons cette idée d'un arbre planté. Dans une autre traduction, un peu plus compliquée à lire, qui coule un peu moins de sens, il faut un peu plus chercher, la nouvelle Bible second, dit ceci, « Heureux l'homme qui ne suit pas le projet des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas parmi les insolents, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui redit sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'irrigation qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Un homme, tel un arbre. Quel arbre ? Là, le texte ne nous le dit pas. Nous avons commencé par imaginer, en début de culte, quel arbre vous auriez aimé être. Dans notre culture occidentale, nous connaissons en général, quand nous avons fait le détour par l'école primaire, cette fable de Jean de La Fontaine, le chêne et le roseau. Le chêne, un jour, dit au roseau, « Vous avez bien sujet d'accuser la nature. » Un roitelet, pour vous, est un pesant fardeau, le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front, ô Caucase, pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête, tout vous est Achillon, tout me semble Zéphyr. Encore, si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrai de l'orage, mais vous naissez le plus souvent sur d'humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel, mais quittez ce souci, les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos, mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord n'eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui qui, la tête au ciel, était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Rappel d'un classique de la littérature française, le chêne ou le roseau. Nous avons à faire un choix. Dans sa fable, dans sa projection, en fin de compte, Jean de La Fontaine visait par le chêne celui qui était le roi majestueux, Louis XIV. Le roseau, bien sûr, n'était que le bas peuple. Chêne ou roseau ? Quel arbre ? Quel arbre avez-vous choisi tout à l'heure ? Quel arbre avez-vous désiré être ? Ici, après notre passage, nous pourrions dire chêne, roseau ou ? Ou quoi ? Avez-vous une idée ? Allez, dites-moi un petit peu. Un arbre fruitier qui porte beaucoup de fruits. Je sais que Luther aimait les pommes, et donc il dit, même si demain on me disait que c'est la fin du monde, aujourd'hui même je peux en planter encore mon pommier, dit-il. Alors, voilà. Et puis, quelqu'un d'autre a un arbre ? Un magnolia. Ouf. C'est magnifique un magnolia, mais moi j'en ai dans ma cour, c'est fragile, hein ? Moindre gelée, pouf ! Un sapin, ah il est toujours vert, ça c'est clair, mais l'autre jour on passait le long de l'autoroute de Luxembourg, et ma femme me dit, mais c'est quoi tous ces sapins qui sont par terre ? Non, on ne les avait pas coupés, il y avait sans doute eu un coup de vent et ils étaient couchés. Un sapin, c'est très beau, mais le problème, c'est que ça n'a pas tellement de bonnes racines et c'est assez facilement déracinable. Qui d'autre ? Un noyer. Hein, après la Deuxième Guerre mondiale, il n'y en avait plus beaucoup de noyers, hein, parce que ça servait pour les crosses de fusil. Oui. le bouleau, un olivier. On retourne là du côté de la Bible. Vous auriez pu aussi me dire un figuier, parce que on trouve aussi cet arbre dans la Bible. Nathanaël lit l'Écriture sous le figuier. Il y a des passages de l'Écriture qui nous parlent aussi d'un térébinthe, hein, le térébinthe du Liban. Le cèdre du Liban, qui est un arbre majestueux. Permettez que je vous dise quel est mon choix ce matin. Alors, mon choix, à moi, c'est le palmier. Bizarre. Pourquoi donc envisager un palmier ? Peut-être que, et je voudrais faire un petit détour par le psaume 92, et dans le psaume 92, il est dit ceci, « Les justes fleurissent comme le palmier. » Les justes, nous avons déjà ensemble un tout petit peu réfléchi sur la notion de juste, il n'y a pas un seul juste dit. L'apôtre Paul, et il a raison. Cela n'empêche que dans l'Ancien Testament, on trouve le mot juste, des justes. Et Noé était un de ceux qui étaient justes, quoique ses abus d'alcool de temps en temps ont été problématiques dans sa vie. Un juste, c'est pas quelqu'un qui est sans défaut, c'est quelqu'un qui est fidèle et qui est loyal. Les justes fleurissent comme le palmier, ce sont ceux qui restent dans cette fidélité, dans cette loyauté à Dieu. Ils en arrivent à porter du fruit, et cela, on le trouve dans le psaume 92. Waouh, on est parti là. Alors on est parti, je vous emmène dans un petit voyage, mais vous savez que moi je n'ai jamais beaucoup voyagé dans ma vie, seulement un seul endroit, hein, c'est du côté de Madagascar. Et un endroit que... Monsieur De Smit, vous connaissez Monsieur De Smit ? Monsieur De Smit avait dit, un jour, tu dois absolument faire un séjour à Sainte-Marie. Alors, à Madagascar, il y a pas mal d'îles, hein. Il y a la grande île, bien sûr, et puis il y a toutes les autres îles, et il y a une île qui s'appelle l'île de Sainte-Marie. Et donc, c'est peut-être la seule fois où nous avons pris du repos à Madagascar, c'était lors de notre deuxième voyage, où nous sommes allés nous reposer à l'île de Sainte-Marie. Au bord d'un lagon, sable fin, tout blanc, et bordé de cocotiers. Les cocotiers font partie de la famille des palmiers. Ça, c'est un autre endroit. On a retraversé de l'autre côté de la... on est de nouveau sur la grande île, on est juste en face de Sainte-Marie. On est dans un endroit juste en dessous de Foul Point, où nous avions fait un camp famille extraordinaire, pouvoir partager l'Écriture, discuter de nos couples et la vie du couple à l'ombre des palmiers. Hein, il y avait comme ça des palmiers qui étaient là et qui nous permettaient d'avoir de l'ombre. C'était super agréable. On était à quoi, 30 mètres, 40 mètres du bord de l'océan Indien. C'était vraiment agréable. Des noix de coco. Il fallait faire parfois attention de ne pas en recevoir une sur le crâne, parce que ça tombait, mais c'était agréable aussi, hein, vous connaissez les propriétés de la noix de coco. Hein, aujourd'hui, on vous dit que si vous voulez, si vous avez une maladie dégénérative, il vous faut prendre de la noix de coco. C'est la seule huile qui va, en fait, permettre la régénération des neurones. Et donc, c'est extrêmement important. Voilà un fruit qui est donc de l'ordre du palmier. On va quand même un peu faire de l'hébreu, hein. Pas beaucoup, mais le palmier en hébreu, c'est Tamar. Peut-être que vous connaissez ce prénom qui a été donné à pas mal de femmes. En grec, c'est Phénix. Quelle est la caractéristique du palmier ? Il pousse sur un sol pauvre. Il n'a pas besoin d'un sol très riche. Il n'y a pas besoin d'être en SB pour pouvoir être et pousser. Il est le symbole de quoi, le palmier ? De la grâce. De la grâce. De l'élégance. Ce qui fait que ce nom a été donné à pas mal de femmes qui s'appellent Tamar. Le palmier est aussi celui qui est le symbole de la droiture. Et vous comprendrez ma petite allusion au psaume tout à l'heure concernant les justes. Hein, ils sont comme des palmiers qui portent du fruit. Il y a une chose qui est intéressante dans la culture du palmier, et peut-être que vous en mangez aussi à certains moments, c'est le cœur du palmier. Le cœur du palmier, en fait, est quelque chose d'important, car le cœur du palmier, c'est l'élément central, mais c'est l'élément vital du palmier. Il permet au palmier de résister à toutes les attaques extérieures, qu'ils soient des insectes ou des bestioles. Et là, il y a une image que je voudrais simplement prendre. En fait, le cœur, c'est l'élément vital. Notre cœur, pour la plupart des gens, c'est aussi l'élément vital, et bien souvent dans notre civilisation occidentale, aujourd'hui, nous confondons cœur et cœur. Car aujourd'hui, ce qui compte dans la société aujourd'hui occidentale, c'est l'amour. I love. Alors, on aime tout. On ponctue les conversations par « je t'aime ». On n'en pense peut-être pas moins. Mais on le ponctue. Ça fait bien de ponctuer les conversations par « je t'aime ». J'ai toujours un problème quand les mots reviennent comme cela sans qu'on y pense. Je préfère qu'on réfléchisse à ce que l'on dit. Mais, bien souvent, nous nous distançons de l'élément central qui est le cœur dans la Bible. Et le cœur dans la Bible, c'est pas I love Jesus. Le cœur dans la Bible, c'est le siège des décisions. C'est moins le siège des émotions que le siège des décisions. C'est là où l'on décide de. C'est là où on prend l'initiative de. C'est là où, en fin de compte, je prends et je décide de faire ceci ou cela. En fin de compte, le cœur, c'est de l'ordre de la volonté. Et frères et sœurs, aujourd'hui, quelque part, nous sommes tellement dans une société où l'émotionnel est quelque chose de primordial que tout devient émotion. Mais en fait, on ne réfléchit pas, on ne prend pas de décision, on ne fait pas les bons choix et on décide n'importe quoi. Le cœur du palmier, c'est un cœur qui lui permet de résister contre toutes les attaques extérieures. Mais je dirais que le cœur de l'homme, et le cœur de la femme, la volonté qui est dans l'être humain, nous permet aussi de résister à tout ce qui, en fin de compte, sont les attaques d'eux. Quelles sont les attaques dont nous sommes victimes? Alors, je ne dirais pas que nous sommes toujours dans le système de Ève et de Adam au temps d'Éden, lorsque le serpent ancien s'approche et dit « Est-ce que Dieu a bien dit ?» Mais combien de fois est-ce que, dans mes émotions, je perçois des choses et des choses qui ne sont pas de l'ordre de Dieu. J'en prends un par exemple. Combien de fois est-ce que dans mon ministère pastoral, j'ai entendu des personnes qui me disaient « Je ne sais pas si Dieu m'aime » parce qu'elles avaient besoin, elles avaient ce vide affectif, elles avaient besoin d'être aimées. Mais excusez-moi, moi, mon cœur décide d'appliquer à ma vie ce que la parole de Dieu me dit. Dieu est amour. Oh, pasteur, je ne ressens plus l'amour de Dieu pour moi. Mais t'as pas besoin de le ressentir, l'amour de Dieu pour toi. Regarde à la croix. Et l'apôtre Paul me dit quoi? Alors que nous étions encore rebelles, Christ est mort pour nos péchés. Ainsi, il a démontré son amour pour chacun d'entre nous. J'ai pas besoin de ressentir l'amour de Dieu. Si même à certains moments, c'est là une chose qui peut m'arriver, ce n'est pas forcément tout le temps que je le ressens, mais je le sais, et je décide de le croire. Dieu m'a abandonné. On est toujours dans l'émotion. Parce que j'ai subi un jour, un moment dans ma vie, dans ma croissance, dans mon éducation, j'ai vécu un moment donné de l'abandon. Le rejet, je me sens encore toujours aujourd'hui abandonné. Mais qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit à la fin de l'évangile de Matthieu au chapitre 28? Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est ce que la parole de Dieu me dit et je décide de le croire. Et je décide d'adhérer. Cela m'empêche, frères et sœurs, de commencer à, dans ma tête, à être attaqué par. Ton cœur, un jour, on t'a invité à le donner à Jésus. À recevoir Jésus dans ton cœur. Mais moi, je sais que j'ai reçu l'Esprit Saint. Le jour de ma conversion, le jour où Dieu m'a converti et où j'ai reçu Jésus dans mon cœur, j'ai reçu aussi l'Esprit Saint qui me redit encore aujourd'hui que je suis enfant de Dieu. Frères et sœurs, nous avons un souci. C'est en fait que de moins en moins, je sais que je vous le répète pratiquement chaque fois que je viens vous visiter, mais je vous le redis, de moins en moins dans les églises évangéliques, on connaît la parole de Dieu. De moins en moins, on se nourrit de la parole de Dieu. Et on se laisse aller à toutes sortes de mésaventures conduite par les émotions. Notre cœur, il faut le préserver. Chouette, nous avons commencé ce culte par un cantique que je ne connaissais pas. Waouh ! Super ! Je me suis appliqué à le connaître. Mais, Marie-Luce, tu veux bien que j'introduise un machin ? Le problème, mes frères et sœurs, c'est que aujourd'hui, on est dans une pléthore de cantiques nouveaux. Et le jour où vous serez en panne d'électricité, qu'est-ce que vous ferez ? Quels sont les cantiques que vous connaissez par cœur et que vous saurez dire, chanter ? Je passe d'une église luthérienne à une église réformée, je passe à une église évangélique. À Madagascar, t'as pas de problème ? T'as aucun problème avec les cantiques. Ils chantent tous les mêmes cantiques. Ils n'ont pas de recueil de cantiques, ils les connaissent tous par cœur. Ils ont un fond commun. Frères et sœurs, le jour où l'on subira une attaque importante, c'est au niveau électricité que l'on l'aura. Et ce jour-là, nous serons privés de tout. Ce jour-là, nous n'aurons même pas la possibilité d'aller sur notre smartphone chercher le texte biblique. Nourrissons-nous de la parole de Dieu, mais nourrissons-nous aussi de celle qui est écrite et éditée. Faisons attention à garder des choses et des choses que nous pouvons nourrir dans notre cœur, des versets que nous voulons graver dans notre cœur, et qui vont nous servir à pouvoir contrer les manœuvres de l'ennemi. La cana, ça te rappelle quelque chose ? Ça vous rappelle quelque chose ? Le palmier, c'est la victoire sur la puissance. Quelle puissance ? Aujourd'hui, mois de février, sur Madagascar, normalement, c'est le temps des cyclones. Alors, je dis bien normalement parce que nous sommes dans une situation assez problématique, puisque, en fait, compte, il ne pleut pratiquement pas sur Madagascar, enfin sur le nord, il pleut par contre sur le sud. Il y a déjà, je vous le dis, Alain, c'est un sujet de prière, il y a déjà un problème au niveau de la première plantation de riz n'a pas pu avoir lieu parce que on n'avait pas suffisamment d'eau. Et puis, on craint maintenant d'avoir une pénurie de riz, donc une pénurie qui va créer un problème de famine, mais aussi sur le nord et sur Tana. Non seulement il y a des coupures d'électricité, mais maintenant il y a aussi des coupures d'eau. Le temps des cyclones, disais-je, je ferme mon information et votre sujet de prière. Le temps des cyclones, c'est le temps où le vent se déchaîne. Le vent se déchaîne et le vent vient frapper les arbres. Que fait un palmier? Que fait un cocotier? Il plie jusque par terre. Et quand il s'est plié et que le vent cesse, il se relève. Frères et sœurs, nous passons par des temps et des temps dans notre vie à certains moments, mais comme l'a dit notre frère tout à l'heure, il y a des temps où on vit bien, agréablement, mais il y a des temps aussi où j'ai des tempêtes dans nos vies, des difficultés qui s'amoncellent dans nos vies. Qu'est-ce qui va faire que je tienne? Et que je tienne comme un palmier. Vous savez quelle est la spécificité du palmier? Sa spécificité, c'est l'arbre qui a les plus longues racines. Contrairement au sapin, lui, il a des racines qui vont chercher l'eau là où elle se trouve. Mais le palmier, lui, est enraciné. Et combien de fois est-ce que je vois des chrétiens aujourd'hui qui n'ont plus de racines, qui n'ont pas cette culture de l'Écriture, qui n'ont pas cette culture de la prière, qui n'ont pas cette joie en eux de la présence du Seigneur. Le palmier, lui, est celui qui fait barrage à tous les problèmes. Il est aussi le symbole de joie de l'avoir emporté sûr. Nous sommes à la veille de des Oscars. Ça me fait penser à Festival de Cannes, la Palme d'Or. Jour de joie, jour de victoire. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 12 et verset 12, il est dit « Le lendemain, la grande foule qui était venue pour la fête entendit dire que Jésus venait à Jérusalem. » Les gens prirent des branches de palmiers et sortirent au devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Jésus trouva un ânon, s'assit dessus et selon ce qui est écrit « N'aie pas peur, fille de Jérusalem, ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse ». Les branches de palmiers que l'on agitait, c'était en eu égard à la personne de Jésus que l'on recevait comme le roi. Et ces palmiers étaient agités principalement donc pour faire honneur à notre Seigneur qui entrait à Jérusalem. Jérusalem l'attendait comme le roi et le roi qui allait prendre le pouvoir et qui allait renverser le pouvoir des Romains. Non, c'était pas de cela qu'il s'agissait, mais c'était bien, sans le savoir, le fait d'accepter, de reconnaître que Jésus était le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, c'est ce qu'il sera d'ailleurs dit plus tard. Après sa mort et sa résurrection. Jour de joie, victoire à l'agneau, Dans Apocalypse, chapitre 7 et verset 9, il est dit ceci: « Après cela, je regardais encore, et je vis une foule immense de gens que personne ne pouvait compter. C'étaient des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et avec des palmes à la main. » Il criait avec force « Salut, il est à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » L'acclamation du roi des rois, son acclamation parce qu'en fait compte, il est victorieux. Et je voudrais que vraiment, aujourd'hui encore, nous ayons cette idée que Jésus a triomphé. Jésus a triomphé de toutes les embûches que l'on a mis sur son chemin. Il nous entraîne à sa suite. Et frères et sœurs, dans nos vies, certes, il y a des problèmes. Certes, il y a des épreuves. Certes, il y a des difficultés. Certes, Jésus n'a pas dit, deviens chrétien et tu n'auras plus de problèmes. Mais je sais qu'au sein de mes problèmes, au sein de mes difficultés, je sais que lui, il règne. Et si mon cœur est pétri et si j'ai la connaissance de sa parole, je sais résister et je sais prendre la décision de faire en sorte que. Frères et sœurs, je crois qu'il est important aujourd'hui que nous comprenions que notre cœur, c'est pas simplement l'élément organique, c'est pas simplement là où se jouent les émotions, j'aime ma femme, je t'aime. C'est là où l'on prend les décisions et où on va jusqu'au bout. Résiste, le palmier résiste à toutes les tempêtes de la vie, il tient. Parce qu'il plonge ses racines dans le terreau et dans le terreau de la parole de Dieu. C'est à ce moment-là que l'on reste fidèle, que l'on reste loyal, que l'on porte du fruit et que l'on traverse les épreuves. Alors, quel est ton choix? Quel est ton choix? Chêne, roseau, sapin? Mon choix, moi, c'est d'être palmier. C'est de me nourrir de l'Écriture, c'est de me nourrir de la parole de Dieu, et c'est de prendre position contre tout ce qui m'agresse aujourd'hui avec l'assurance que la parole de Dieu est parole de Dieu et qu'en fait compte, elle me secourt dans toutes les situations, que l'Esprit Saint sera avec moi. Alors, frères et sœurs, il est important pour nous de recourir à la mendication de la parole de Dieu, de manger cette parole et de pouvoir ainsi être prêt dans les moments difficiles de nos vies à confesser, attester, dire. Ainsi, nous résisterons à toutes les difficultés qui ne cherchent qu'une chose, c'est bien souvent à nous enfermer. Que le Seigneur nous soit en aide et qu'il nous aide à pouvoir continuer à cheminer avec lui de façon loyale et fidèle. Au bout de cela, nous savons que nous recevrons la couronne de vie et nous recevrons les lauriers. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire notre reconnaissance et te bénir de ce qu'aujourd'hui encore, Seigneur, ta parole est là pour nous relever, pour nous fortifier, pour nous inviter à aller plus loin. Seigneur, nous désirons de plus en plus avoir ses racines. De plus en plus profonde, puiser là où ça se trouve, la source de l'eau vive, afin de pouvoir traverser toutes les époques, toutes les épreuves, toutes les difficultés de la vie, et de porter du fruit, fruit qui est en fait simplement à ta gloire. Père, soutiens-nous dans notre démarche. Fortifie-nous, encourage-nous. C'est ce que nous te demandons dans le nom béni de Jésus. Amen.